Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tout le monde. J'aimerais que nous nous entretenions sur un sujet aujourd'hui et que j'ai intitulé « Les épreuves qui donnent la vie ». Alors, nous allons faire la lecture de deux textes qui va situer notre pensée, notre réflexion. Dans Job, chapitre 42 et verset 3, voilà ce que Job nous dit. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et puis également, nous allons tourner quelques pages dans notre Bible et nous allons aller dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13 et au verset 7, où il est question de Jésus, une réponse de Jésus à Pierre. Voilà ce que nous avons sous les yeux, ce que je fais. Dit Jésus à Pierre, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, tu le comprendras vite. Nous savons que le livre de Job est le livre le plus ancien, probablement, et le plus moderne, et il est toujours d'actualité pour la raison qu'il traite de l'incompréhension de la souffrance humaine. Et ça, c'est un phénomène de toujours, où nous posons des questions lorsque nous traversons la douleur, la souffrance et toute autre chose semblable. Avec des questions, naturellement, comment un Dieu réputé bon peut-il, en effet, ou permet-il les souffrances et les douleurs dans l'humanité ? Alors, tout cela va peut-être des chagrins, des pertes, de la santé, des êtres chers qui disparaissent autour de nous, l'absence de ressources, puis bien d'autres choses que nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler. Et lorsque nous ouvrons le livre de Job, alors là nous sommes véritablement dans le livre de ce qui touche l'humanité de différentes manières, et j'aimerais simplement faire une courte énumération des pertes de Job. Il faut savoir que Job était un homme remarquable, un homme de foi, un homme qui, servait Dieu. Il nous est dit précisément qu'il servait Dieu avec intégrité et justice. Et un beau jour, il a perdu tous ses biens matériels. Son cheptel a été décimé, il a été volé par, des bandits, des brigands. Et puis, il s'est trouvé également que ses serviteurs ont été massacrés. Ses fils et ses filles, réunis ensemble, ont été assassinés et il a eu des destructions matérielles à cause de ce temps difficile, de cette époque, perdue dans les origines de l'humanité. Et nous savons qu'il a subi les sauvageries de razzia, de bandits et toutes sortes de choses. L'homme le plus puissant d'Orient nous laisse penser le premier chapitre du livre de Job. Alors cet homme puissant, un prince, se retrouve dans la plus sombre des misères du jour au lendemain. Alors naturellement, quand on est croyant, quand on est chrétien, de quoi être déçu de Dieu ? Et déçu par Dieu, parce que cela peut être considéré comme un abandon, une trahison. Et pourquoi, naturellement, avec ces questionnements, ces interrogations, comment, le malheur frappe-t-il les braves gens, les bons et les innocents ? Peut-être que nous pouvons, en lisant les aventures, les mésaventures de Job, penser que c'était un brave homme, qu'il était bon, et que dans tout cela, il était innocent. La première approche du problème, c'est la souffrance qui est ici exposée, qui est en toile de fond, mais le thème, le sujet principal, est avant tout celui de la confiance en Dieu, de cette fidélité à Dieu dans les heures critiques de la vie. Que faisons-nous ? Que pensons-nous ? Comment réagissons-nous? On peut dire que la tête de Job est mise à prix, dont en arrière-plan, et ça c'est véritablement, là on pourrait dire un coin du mystère, enfin un élément du mystère, comment en arrière-plan se dévoile un épouvantable défi d'ordre surnaturel dans le monde invisible. Ce sont les chapitres 1er, chapitre 2, qui nous révèlent en effet eh bien, cette chose que Job ignorait complètement et totalement, que nous apprenons naturellement en lisant ce fameux livre, et nous savons que Job ignorait ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé, d'où ses tourments et ses perplexités. Comment expliquer ? En effet, tous les malheurs de la terre, quand il y a un enjeu, quand il y a un défi, au-delà de nos sens, au-delà de nos regards, au-delà de nos perceptions, nos sens, en effet, qui peuvent identifier telle et telle situation, tel et tel phénomène, mais nous savons que Job était dans l'ignorance de tout ça. Et nous avons un avantage sur Job pour expliciter naturellement les situations difficiles. Alors naturellement, quand on ne comprend pas, quand les origines et quand les situations nous sont cachées, alors naturellement il faut un coupable, il faut chercher un coupable. Nous savons que le livre de Job traîne en longueur en pensant que Job est coupable et qu'il récolte ce qu'il mérite. Alors si ce n'est pas la faute de Job, c'est aussitôt, et c'est véritablement mis en accusation dans les hommes de toutes les générations, alors c'est la faute de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il? Pourquoi nous laisse-t-il dans une telle situation? Alors Job va être aussi entouré d'amis, prétendument amis, mais ce sont des amis fâcheux, qui vont ne jamais cesser de l'accuser. Et Job se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive cette situation? Qu'est-ce que j'ai pu faire, comme on dit très familièrement, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il, je connaisse tout cela? Une chose que je voudrais faire remarquer, c'est que quelque part, on accuse les hommes, on peut accuser Dieu, mais jamais le diable, quoi qu'il en soit. Alors qu'il a un rôle. Alors je dis, Job se dit tout simplement, pourquoi tout ça? Certainement que Dieu me punit, tout simplement. Alors dans le chapitre de ce livre de Job, au chapitre 30 et au verset 26, certainement des réflexions que Job pouvait se faire dans ce puits de souffrance, dans cette descente aux enfers, on peut dire. Il dira ceci, « J'attendais le bonheur et le mal est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres, en effet, sont venus. Tout cela, véritablement, pouvait agiter l'esprit de Job. Pathétique questionnement et quel défi, naturellement. Voilà le dilemme de l'humanité entière sous la souffrance. Les hommes n'ont jamais cessé de vivre toutes sortes de tragédies, toutes sortes de bouleversements, et nous voyons que en effet, c'est toujours encore l'actualité de nos jours de savoir qu'il peut y avoir des phénomènes naturels dévastateurs, il y a des guerres, il y a des famines, il y a, comme nous le traversons actuellement, des contagions et des épidémies, mais ça nous sommes prévenus parce que nous savons que la Bible est très explicative sur ces phénomènes. Voilà le dilemme de l'humanité. Et voilà un aperçu des calamités de Job dans l'invisible, naturellement. Alors, ces calamités nous sont explicitées, elles nous sont données à travers un texte d'au début du livre, tout début du livre, et j'aimerais lire un peu ce passage parce qu'il lève un coin du voile, un coin du mystère, et au chapitre 1er, du verset 6 au verset 12, nous allons prendre le temps de lire ce passage. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan, il est nommé, naturellement, il est désigné nommément, vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. L'éloge est fait par Dieu sur la personne de Job. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Alors nous avons là une explication qui remonte dans un espace qui n'est pas le nôtre, hein, mais ce qui se passe au ciel, parce qu'il s'agit tout simplement d'un défi sur la vie, la tête de Job. Naturellement, nous sommes confrontés avec un pathétique questionnement, et quel défi à relever ? Surtout quand nous n'avons pas connaissance finalement de ce qui se joue autour de notre vie. Ce sont les calamités, nous avons un aperçu des calamités de Job dans la visible. L'accusateur est à l'œuvre et le nom est donné, Satan, celui qui accuse, celui qui détruit, celui qui veut véritablement anéantir l'œuvre de Dieu et la création de Dieu, et qui plus est, sa créature, lorsque cette créature, est favorable à Dieu. Alors, Satan s'adresse au Créateur et lui dit, « Mais Dieu, parce que tu favorises Job, parce que tu le gâtes, parce que tu sais qu'il est intègre, il est fidèle, il est droit, alors tu le bénis. » Et nous voyons que peu à peu, au fil des chapitres, Job s'enfonce dans l'abîme d'indicibles douleurs, une sorte d'enfer dans son corps, nous allons voir les détails, dans son âme à travers les tourments, et dans son esprit, et il ne sait plus quoi, naturellement, penser. L'enjeu se situe autour de 5 questions essentielles, des questions fondamentales, devant lesquels l'homme qui souffre devra prendre pour ou contre position, pour ou contre Dieu. Et sa foi seule fera la différence. Job jouera ce rôle en témoignage, soit d'échec s'il se met contre Dieu, ou de victoire s'il prend le parti de Dieu. D'abord, la première question, c'est que Dieu est-il injuste ? Ça, c'est la question que nous nous poserons naturellement. La deuxième question, Dieu ne donne-t-il jamais d'explication aux choses et aux événements qu'il permet dans la vie des hommes? Troisième interrogation, Dieu et ses silences. C'est vrai que dans l'épreuve, les croyants ont l'habitude de prier, parfois même de supplier, pour que Dieu leur donne des éléments de soutien ou d'encouragement, mais Dieu aussi a ses silences. La quatrième situation, c'est question, Dieu serait-il absent ? Est-il véritablement auprès de nous ou se cache-t-il quelque part ? Et puis la dernière chose, c'est pourquoi Dieu, en effet, se cache-t-il s'il est absent ? Quelles sont ses raisons ? Est-ce qu'il ne veut pas voir nos difficultés ? Il y a un exemple tout à fait particulier de Job. C'est après toutes ces situations et tous les sinistres qu'il a vécu, c'est sa femme. Et nous voyons que sa femme, elle prend position contre Dieu et dit à Job à un moment donné, maintenant, puisque tu sers ton Dieu, puisque tu l'as servi, qu'il ne t'entend pas, qu'il se cache, qu'il est absent, qu'il garde silence, alors elle lui dit tout simplement, elle lui envoie finalement en pleine figure, maudit Dieu et meurt, parce que ça ne sert à rien de croire en Dieu. Alors, nous voyons que tout cela est une situation bien difficile pour Job. Et nous avons lu dans l'introduction de notre message, nous avons lu cette parole de Jésus qui répond à Pierre, « Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » D'autres traductions, tu le comprendras bientôt, tu le comprendras vite. Alors, est-ce un abandon de Dieu ou est-ce que Dieu, véritablement, même s'il ne nous parle pas, même s'il semble caché, où est-il et est-il présent avec nous dans nos infortunes ? C'est vrai que nous pouvons nous interroger, donner libre cours à notre perplexité par cette affirmation. Comment croire encore en un Dieu qu'on soupçonne d'être l'auteur de la misère et des causes de toutes nos souffrances? Comment croire encore? C'est vrai que c'est difficile, eh bien là, à aborder et à admettre. Job n'aborde pas de réponse miracle au grand pourquoi des hommes, mais plutôt une autre question objective. Et je crois que ça, c'est ce que nous devons retenir, c'est ce que nous devons apprendre, eh bien là, dans tous ces mystères de la souffrance et des douleurs des hommes, mais c'est plutôt ceci, dans quel but? Voilà, dans quel but? Où y a-t-il un sens? Y aurait-il une signification à nos souffrances, à ma souffrance, et ainsi nous révéler ce qui est en nous? C'est-à-dire que quelque part, la question ne doit pas nous diriger, eh bien là, en interrogation ou en accusation de Dieu, mais nous diriger par rapport à nous-mêmes, nous diriger vers nous. Que cela nous révèle-t-il de nous, de notre comportement, de notre vie, sans forcément que ce soit quelque chose eh bien, d'accusatoire? Non en Dieu, de par Dieu, venant de Dieu. Alors, le mystère du voile se lève et nous avons finalement, eh bien là, dans notre passage, un texte de Job, chapitre 35 et verset 14. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir l'évoquer. Je rappelle, chapitre 35, verset 14, parce que cette parole est belle. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, que tu ne l'entends pas, eh bien, ta cause est devant lui, alors attends-le. » C'est vrai que nous pouvons toujours eh bien, nous plaindre, nous pouvons toujours, en effet, être troublés par tout cet environnement que nous ne saisissons pas, mais Dieu répond, il nous dit « Mais ta cause est devant lui, attends-le. » Et ça, c'est quelque chose de très important, peut-être pour vous qui entendez ou lisez le message de livre ou de Job, et le livre finalement que nous sommes en train de commenter, c'est que Dieu nous demande eh bien, de persévérer et d'attendre, en effet, eh bien, son secours qui ne manquera pas, puisqu'il nous fait la promesse que notre cause est devant lui, alors il suffit de l'attendre, mais dans quelles conditions? Le revirement, le mal qui se change en bien, et c'est la reconquête de ce qui a été perdu jadis. C'est vrai, le péché et ses fruits maudits. Ça nous ramène naturellement eh bien, à l'origine du monde, l'origine de la chute des hommes, la corruption de cette humanité. Et c'est vrai que nous n'avons pas besoin d'aller chercher plus loin. Et cet état de choses eh bien, nous vient du livre de la Genèse, au chapitre 3, tout simplement. La souffrance est soit destructrice, ou alors, dans son contraire, elle est créatrice, et dans ce cas, elle ramène l'ordre et l'harmonie dans son état premier, une sorte de reconnaissance et de recréation, et recréer naturellement la participation consentante du souffrant et de sa foi en Dieu, même en l'absence provisoire de preuves. Et naturellement, eh bien, nous avons à travers l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 32, une des plus belles promesses d'espérance, que notre cause est devant lui, que notre situation n'est pas désespérée, que Dieu a les yeux et son cœur auprès de nous. Et il est dit ceci, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, c'est une question de foi. Et nous savons que la suite, c'est Paul qui continue dans son écriture, il n'a pas épargné, Dieu n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire la personne de Jésus, et en le livrant à la mort. Et nous voyons que comment nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Ce que nous pouvons espérer, c'est notre foi, et bien là, dans ce que Jésus a accompli à la croix, puisque c'est, nous le savons, que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers son sacrifice volontaire à la croix du calvaire que Jésus a payé notre délivrance, après a payé notre secours, qu'il a vaincu finalement toutes les puissances des ténèbres. Elles ont été vaincues, elles ont été mises à bas. Et aujourd'hui, notre victoire, notre guérison, nos délivrances, son secours, eh bien, se révèle à travers ce que Jésus a accompli en lieu et place pour nous. Et c'est vrai que cette parole, je la relis, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous, puisqu'il n'a pas hésité à épargner finalement et à donner Jésus pour mourir à notre place. Il l'a livré pour nous, nous dit le texte. Alors, comment nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Et ce toute chose, c'est vraiment eh bien, la grâce pleine et entière et l'assurance eh bien, de son secours total. Alors en conclusion, nous pouvons dire tout simplement qu'on sait que Job a eu une fin heureuse lorsque nous ouvrons la fin de son livre au chapitre 42. Eh bien, nous pouvons affirmer qu'il a eu une fin heureuse car il a donné la preuve de sa confiance en Dieu. C'est vrai qu'il a crié. Il a supplié. C'est vrai qu'il a été confronté avec des pensées complètement, on pourrait peut-être dire, contradictoires. Il ne comprend plus, rien à rien. Mais néanmoins, eh bien, il a fait la preuve, tout simplement, de sa foi en Dieu. Et nous voyons qu'il a relevé le défi, surmonté un pari qu'il a gagné. Et c'est vrai que, dans au cœur même du livre de Job, il nous est dit qu'il déclarera cette parole, Job déclarera cette parole au sein même de la période la plus tragique et la plus terrible de ses souffrances. Il dira « Je sais, j'affirme, je suis convaincu, j'ai la conviction que mon Rédempteur est vivant. Et si mon Rédempteur est vivant, eh bien c'est lui qui va me redonner la vie. C'est lui qui va me redonner ce que j'ai perdu. C'est lui qui va me redonner la santé. » Ça, c'est quelque chose tellement important. Et puis, nous voyons que l'histoire est réécrite. On pourrait la réécrire de cette manière. Par exemple, au début de l'humanité, Adam a cédé, c'est vrai, et il est passé d'un état heureux dans le paradis, dans l'Éden, à un état malheureux. Nous le voyons à travers sa vie. Lui, Job, alors Adam, ensuite Job. Job a résisté, tributaire du mal originel, parce qu'il n'était pas coupable. Adam était coupable, parce que lui, il avait reçu de première voix, et bien là, ce que Dieu lui avait dit, si tu touches à ce fruit qui est défendu, et bien tu mourras. Donc, le premier, c'est Adam. Le second, c'est-à-dire celui qui s'ouvre, celui qui, là, et bien, souffre comme nous l'avons vu, et bien il a résisté, Job a résisté, parce qu'il était tributaire du mal original, et de l'homme de souffrance que nous recueillons dans ce passage, eh bien, il est mort heureux et en paix. Et c'est vrai que nous sommes invités à relire le chapitre 42, eh bien, de son livre. Et puis, je termine maintenant par, donc, nous avons parlé d'Adam, nous avons parlé de Job, et nous parlons maintenant de Jésus, qui lui a triomphé à la croix. On se souvient de ce passage, que Dieu l'a livré pour nous. Il a triomphé à la croix pour offrir à tous le bonheur perdu est retrouvé, ce bonheur perdu par Adam est retrouvé. Et Jésus nous dira cette parole, « Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. » Alors, nous voyons que là, dans l'histoire de Job, eh bien, après avoir tout perdu, eh bien, Dieu lui a donné là de retrouver tout ce qui lui a été enlevé. Et je pense que je terminerai tout simplement par cette parole, cette pensée, c'est que les épreuves, on pourrait peut-être l'expliquer de cette façon, l'épreuve avec cette notion de plus-value, c'est-à-dire avec augmentation de valeur ajoutée. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est ça pourtant. C'est que nous partons avec rien, nous avons tout perdu, et que c'est une plus-value en quelque sorte que l'épreuve, parce que les épreuves favorisent la vie et la bénédiction dans la mesure où nous faisons foi, où nous mettons complètement et totalement notre confiance en Dieu. Et c'est lui notre délivrance, c'est lui notre secours, c'est lui qui a payé le prix pour que, eh bien là, nous puissions réellement toucher du doigt qu'en effet, il est à la fois notre Créateur, Il est à la fois notre Sauveur, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre. Il est notre Rédempteur, parce que tout a été accompli. Et c'est vrai qu'à la croix du Calvaire, et c'est une des paroles les plus fameuses de l'Évangile, alors que Jésus va rendre le dernier soupir, il se tournera vers son Père Céleste et dira « Mais tout est accompli ». Alors faisons-lui confiance, mettons notre espoir en lui, toute notre espérance est placée dans sa grâce et nous pouvons le saisir tout simplement par la foi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage.